Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Toute l'équipe de la Libre Antenne est heureuse de vous accueillir ce soir pour une Libre Antenne un peu écourtée par le football, mais nous allons quand même passer 1h30 ensemble et essayer de passer bien évidemment un bon moment avec un début de soirée particulièrement difficile pour moi, je vous l'avouerai, parce que vous le savez, je supporte l'équipe de Paris et j'ai eu un peu mal au ventre ce soir, mais bon. On a encore une semaine à attendre et puis on verra bien. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui et que vous êtes prêts, bien installés, tranquillement. 39-21, 50 centimes d'euros la minute, 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et libreantenne@europe1.fr pour vos mails. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre groupe de parole Facebook à Sabine Marin, Olivier Delacroix, La Libre Antenne. Voilà, et bien si vous en êtes d'accord, nous allons commencer votre Libre Antenne du mercredi. C'est parti.
La Libre Antenne d'Europe 1.
Et pour commencer cette émission, nous accueillons Myriam au 39-21. Bonsoir
ouais,
Myriam.
Oui, bonsoir Olivier, bonsoir. Je suis ravie de vous avoir à nouveau à l'antenne parce que j'avais un avis personnel à m'apporter il y a à peu près 3 semaines et il est vrai que j'y pensais plus. Et puis là, j'ai été contactée cet après-midi. Je suis ravie de pouvoir revenir un peu sur le sujet puisque c'était une réponse que je souhaitais apporter à une de vos auditrices donc qui trouvait que bon quand les enfants par exemple commettent ont des comportements inadmissibles hein, alors cette auditrice donc trouvait que il fallait leur pardonner à tout prix quoi de façon inconditionnelle. Alors c'est un avis que je ne partage pas du tout.
Oui.
Parce que j'ai, moi personnellement, donc je suis à la retraite, je suis seule depuis quelques années puisque mon mari est décédé, j'ai eu ma fille assez tard, sciemment, puisque c'était une question de carrière, donc voilà, ce n'est jamais le bon moment hein, dans certaines professions, et puis ma foi je souhaitais quand même avoir un enfant, et puis on me dit souvent que j'ai un caractère assez jeune, outre mon âge, et dans l'ensemble, je m'entends bien avec elle, mais j'ai l'impression qu'elle s'affirme un peu trop par moment.
Oui.
C'est-à-dire, elle a 30 ans, elle n'a pas d'enfant. Et surtout, j'ai ressenti depuis que je me retrouve seule, en fait. Hein. Et bon, il m'arrive, certains amis me disent, oh, ben écoute, c'est quand même ta fille, hein. Voilà, c'est le classique du classique. Un peu comme les réflexions que font certaines personnes au sujet de leurs parents qui ont 80 ans ou voire plus, hein, en disant oh, on ne sait pas comment on sera plus tard. Vous voyez, c'est une phrase qui revient souvent. Alors,
oui,
c'est quand même ta fille, c'est quand même ton fils, et ainsi de suite. Et bon, je n'ai que cette fille. Hein. Je trouve qu'il n'est pas normal d'avoir à pardonner, c'est-à-dire continuellement, quoi. Voilà, on pardonne et hop, ça repart sur autre chose et on pardonne encore sous prétexte qu'on est les parents. Il est vrai qu'on a un attachement avec les enfants, mais je trouve personnellement que le respect, il doit être mutuel, hein. Il doit être mutuel et trop souvent, les parents sont prêts à passer l'éponge, surtout pour n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Et j'ai d'ailleurs un jour interpellé, puisque bon, comme cette auditrice qui disait donc oui, j'ai la foi, donc je suis chrétienne et je pense qu'il faut toujours pardonner. Eh bien, j'aimerais dire à cette auditrice, en espérant qu'elle est à l'antenne, qu'elle nous entend ce soir, pardon, je suis un peu enrouée, eh bien, j'aimerais dire à cette dame qui m'avait l'air très sympa que je suis moi aussi croyante hein, et Et ce qui m'interpelle souvent dans les offices religieux, eh bien le pardon revient souvent. Voilà. Oui, il faut pardonner, il faut savoir pardonner. Puis on n'entend que ça. Et un jour, j'ai interpellé notre évêque en lui disant, écoutez, je partage votre avis sur le pardon, mais pas de façon inconditionnelle. Je pense qu'il serait souhaitable d'interpeller un peu les personnes qui se rendent préjudiciables, hein, et qui, auprès de leur entourage, peu importe que ce soit la famille, les amis, les voisins ou les collègues de travail, je pense qu'il faudrait rendre ces personnes attentives aussi, qu'elles sont redevables de revoir un petit peu leur comportement.
Parce que votre fille se comporte comment avec vous exactement ?
Ma fille, bon, elle a des pics de, bon, elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas bien, elle a des objectifs qu'elle n'a pu atteindre pour l'instant, donc elle reporte un peu sur moi ses mauvaises humeurs, hein. Et puis ça va loin quelquefois, et puis alors elle n'hésite pas, par exemple, à m'apostropher, mais alors vertement, pour des broutilles, mais trois fois rien, alors qui ne sont pas en fait le mobile de son comportement, ce n'est pas ce qu'elle me reproche, c'est son mal-être, je dirais. Hein, parce que souvent, quand on analyse le comportement de gens qui se disputent, en fait, le mobile, ce n'est pas, le mal-être ne réside pas, à mon avis, forcément dans ce qui a engendré la dispute. Il est nettement ailleurs. Il est plus profond. On se sert d'une futilité pour se disputer pour tout, pour rien, quoi. Alors que le problème, il est ailleurs, à mon avis, hein, que ce soit dans les couples, que ce soit entre voisins. Moi, j'ai fait cette expérience aussi avec des voisins. Et j'en suis arrivée à... Je n'entends même pas, enfin c'est une affaire qui dure depuis X années, depuis, voilà. Et puis ces gens sont frustrés parce que bon, ils espéraient que notre maison serait démolie. Or, ça n'a pas été le cas, et à l'époque, ils ont construit donc derrière nous. Donc leur problème, c'est qu'on ne voit pas leur maison. Et puis ça peut engendrer une guerre qui va jusqu'à bon, c'est une vie sans fin en fait. Hein. On s'en prend aux animaux, on s'en prend aux plantes, on s'en prend. Enfin, tout est bon quoi pour.
Et alors donc comment réagissez-vous, Myriam, exactement à tout ça ?
Eh bien, je dirais qu'il y a une trentaine d'années, je réagissais. J'étais dépressive. Et puis, j'ai repris le poil de la bête, en fait, en me disant, si je vais habiter ailleurs, je risque de tomber sur une situation similaire, sur des gens qui sont tarés, qui ont le même comportement. Donc, il faut que je m'affirme là où habite mon mari, c'est-à-dire où habitait mon mari, c'était son lieu d'origine, en fait. Hein. Voilà quoi. Et puis ça renforçait un peu mon autodéfense.
Mais vous voulez dire vous voulez dire que vous ne vous laissez pas faire, donc, c'est ça ?
Maintenant, j'encaisse différemment. Je dirais simplement, j'encaisse les coups différemment. Parce que ça perdure. Hein. C'est une situation qui n'a jamais de fin. Il y a une accalmie pendant les mois d'hiver. Mais dès que le printemps revient, on rentre chez moi dans ma propriété. Hein. On essaie de me harceler par tous les moyens. Mais outre le fait que j'ai avancé en âge, bon, je ne suis plus aussi, je n'ai plus la jeunesse que j'avais auparavant. Mais je pense avoir gagné un peu en sagesse. Parce que il y a une dizaine d'années déjà, je me disais, mais comment se fait-il que l'on... Je m'intéressais plus, moins au contenu des propos de ces voisins, malveillants, médisants, tout ce qu'on pourrait dire, qu'à leurs propos. Je cherchais le pour qui du pourquoi. J'en ai conclu que leur manière d'être, de vivre, relevait d'un malaise.
Oui. Hein,
ils n'ont pas d'enfants. Leur étiquette, c'est la maison. Hein, je connais la profession qu'ils ont exercée, puisque maintenant ils sont eux-mêmes aussi en retraite depuis longtemps. Mais j'en ai conclu que c'était un mal-être de leur personne.
Et donc vous leur pardonnez ce mal-être ?
Écoutez, je suis déjà au-dessus de ça. Vous savez, ça me comment vous dire, ce mal-être, ben écoutez, je pense qu'il appartient à chacun de veiller à être bien dans sa peau, comme on dit, hein, de ne pas s'attarder à des futilités. La vie n'est pas faite que d'une maison, hein, d'une belle façade, d'une belle voiture. La vie a d'autres valeurs, hein, et je pense que ces gens-là, certainement, n'ont pas perçu cette... ils n'ont pas d'enfants, puisque les enfants, ça coûte cher, ils ont des poules, ça pond des œufs, ça rapporte, voyez-vous, c'est une mentalité un peu particulière, quoi. Et puis, il s'avère que, bon, je me suis fait une carapace. Mais surtout, ce que je souhaitais dire, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi ces gens agissent comme ça. Ce n'était pas nous qui les gênions, ce n'était pas notre maison qui les gênait. À mon avis, ils ne sont pas bien dans leur peau, tout simplement. Hein. Donc, voilà, quand on est seul parce qu'on n'a pas d'enfant, on n'a pas voulu non plus prendre sur soi, quand on était plus jeune, pour... supporter les aléas de, voilà, d'avoir un enfant. Il faut se lever la nuit, il faut aller travailler en journée. Bon, ben, c'est pas toujours simple. Hein. Moi, personnellement, bon, j'ai eu ma fille assez tard aussi, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Bon, ça implique des sacrifices, mais je ne sais pas, les valeurs, elles sont ailleurs, je pense.
Mais donc, surtout, quand votre fille est agressive avec vous, comment vous lui parlez un peu? Vous lui dites tout ça?
J'ai essayé, d'ailleurs mon mari aussi, il a eu des moments, quand je l'ai connu au début, il était pendant X années, il était l'homme le plus calme, l'homme que tout le monde aurait souhaité, quoi, que toutes les femmes auraient souhaité avoir. Et puis un jour, il a changé un peu d'attitude, parce que je l'ai sorti un peu d'un marasme dont je ne voudrais pas, sur lequel je ne voudrais pas m'étaler à l'antenne, mais il était marié, il avait déjà... une vie de couple derrière lui. Bon, il a eu énormément d'aléas avec cette femme. Et donc, il n'avait pas fait de thérapie. Et bon, au bout d'un moment, c'est moi qui ai un peu fait les frais de son vécu. Hein. Et j'ai développé, j'ai analysé aussi la situation. Enfin, nous avions déjà notre fille. Et je me suis dit, pourquoi est-il comme ça? Bon, après, bien sûr, il s'est avéré qu'il souffrait d'une certaine pathologie neurologique qui est difficile à supporter pour l'entourage. Hein. Et je me suis dit, il y a toujours une stratégie quelque part. Le problème, c'est de la trouver.
Oui,
que ce
ça,
soit
oui.
un rapport envers le voisin. Enfin, c'est de mon point de vue. Hein. Je vous donne mon avis. Mais le respect doit primer. Il faut se faire respecter, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, le respect, de mon point de vue, commence déjà par ne pas s'envoyer des gros mots, hein, surtout pas s'abaisser à s'envoyer des gros mots, hein, que ce soit en couple, que ce soit envers des voisins ou entre collègues de travail, surtout pas de gros mots. Je pense qu'il vaut mieux ne pas répondre au tac au tac et puis attendre le moment opportun pour soit aller vers la personne si on la juge suffisamment réceptive et intelligente aussi, parce qu'il faut chercher le mobile, la raison de son comportement. Et souvent, ce n'est pas ce qu'on pense. Il est tout à fait ailleurs. Mais maintenant, je reviens par exemple à la vie de couple. Bon, mon mari avait des comportements dus à sa pathologie, ce qui était difficile à supporter. Et je l'ai rendu attentif aux désagréments que ça pouvait me causer. Hein. Et alors, mais il récidivait tout le temps, quoi. Voilà, c'était ça le problème.
Mais un jour, quelle pathologie avait-il, en fait?
Oh, mais il était bipolaire. Hein.
D'accord.
Oui, alors donc, voilà, je ne savais jamais ce que j'allais trouver en rentrant. Hein. C'était l'inconnu, hein. Et puis bon, il faut gérer tout ça aussi. Hein. Je gérais ma mère qui était déjà âgée aussi et qui est très accaparante. Mmh. En fait, je gérais, j'avais ma profession, je gérais encore des locataires en parallèle. Enfin bon, j'étais toujours en train de m'investir dans quelque chose, hein, au détriment de mes propres aspirations, de mes loisirs, enfin bon, voilà, je me sens
bien. Et du coup, vous avez tout à fait totalement changé aujourd'hui, c'est ce que vous nous expliquez?
Absolument, je trouve personnellement que j'ai changé, oui, je dirais que j'ai changé, mais c'est pour moi, c'est ma manière de me protéger, voyez-vous. C'est ma manière de me protéger. Et j'ai développé un calme lorsque je me fais agresser verbalement. Je pense qu'on ce qui est important, c'est de maîtriser la situation. Et la situation ne se maîtrise que dans le calme.
Vous avez raison, le calme est nécessaire dans toute situation. Mais ça n'est pas facile de garder son calme.
Oh parfois. Là que non, et ça nécessite tout un apprentissage. Hein.
Ouais.
Et j'ai développé cet apprentissage, donc déjà envers mon mari par exemple. Eh bien, j'ai trouvé la bonne stratégie, j'ai fini par ne plus l'écouter. Je l'ai ignoré complètement. Et alors ça, c'est une chose qu'il avait du mal à accepter. Alors je dirais, si je peux me permettre de donner un conseil aux auditrices et aux auditeurs, quand on est incommodé, voire harcelé, il y a toujours une solution. Mais le plus gros problème, c'est de trouver la solution adaptée à la situation, voyez-vous, et à la personne. C'est mon point de vue. Hein.
Oui, oui.
C'est mon point de vue.
Non, mais il se défend, votre point de vue, absolument.
Et je ne suis pas psychologue du tout. Bon, j'ai travaillé dans la relation humaine, puisque j'avais des élèves, des adultes qu'il a fallu gérer aussi, parce qu'on rencontre toutes sortes d'individus dans les formations supérieures. Et puis, croyez bien qu'il faut savoir, on apprend à gérer, ou alors on reste chez soi, hein, parce que ça vous prend les tripes. Hein. On se dit, oula, comment vais-je aborder telle ou telle situation? Eh bien, c'est ça, ou alors on reste chez soi.
Hein. Et vous êtes plus heureuse aujourd'hui, donc du coup?
Je ne suis pas malheureuse non plus. Hein.
Vous avez des amis un peu autour de vous ou...
J'ai perdu un peu mes amis parce que faute de les avoir négligés, faute de m'être consacrée à eux.
Oui.
Et mes collègues étant nettement plus jeunes que moi, donc alors ça fait que bon, elles ne sont pas encore à la retraite. Moi, j'y suis déjà depuis une dizaine d'années. Et bon, j'ai 71 ans. Bon, écoutez, je vais vous le dire. Ça vous donne une idée plus précise de la personne que vous avez au téléphone. Mais
pourquoi?
Bon, voilà, j'ai toujours...
Pourquoi non?
Peut-être. Vous savez, bon...
On peut très bien à 71 ans. Enfin, on est de différentes natures. Mais je pense qu'à 71 ans, on a plein de choses à raconter, plein de choses à dire, plein de choses à faire.
Oui. Bah
oui.
Disons que, bon, on me dit que je fais assez jeune, de caractère aussi. Et je me sens jeune de caractère, enfin, j'ai peine à le dire, mais bon, je me sens 55 ans à peu près.
Et alors, voilà, donc, du coup, comment ça se traduit? Est-ce que vous
au
avez, vous
au
avez quand même des relations un peu avec...
J'ai toujours des engagements, faute d'avoir pu déléguer. Hein. C'est qu'on m'a toujours accablé de responsabilités, j'ai très accablé parce que maintenant... J'ai vu les années passer, j'ai pas toujours la santé que j'aimerais avoir, mais bon, je gère et je suis d'un naturel plutôt optimiste. Hein.
Oui.
Mon mari était plutôt pessimiste, alors lui voyait toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, disons. Hein.
Oui. Oui.
Et bon, moi, j'ai cet avantage-là, effectivement, ça aide. Hein.
Et donc, du coup, avec les hommes, vous avez décidé d'arrêter ou est-ce que vous verriez bien?
Ah non,
bien...
pas du tout. Mais non, écoutez, c'est faute de fréquenter, de sortir un peu de chez moi.
Oui.
J'ai quand même, la chance d'être, de rencontrer par mes activités, puisque je supervise des travaux dans certains des appartements, voilà. Grosso modo, j'ai l'occasion de rencontrer des gens bien, même, je dirais, des hommes, puisque vous avez cité, des hommes même plus jeunes que moi, qui m'apprécient d'ailleurs, qui me trouvent bien, qui me le font savoir.
Oui.
Mais
concrétiser vrai, alors, vous concrétisez un peu.
C'est-à-dire que je ne précipite pas les choses, non. Justement, c'est là que je freine un peu, peut-être même un peu trop. Pour des raisons d'éducation, enfin je dirais pas forcément d'éducation mais de conviction personnelle, disons-le comme ça, je dirais plutôt ça. Parce que moi je suis, j'ai certains principes, hein, bon, j'estime que ce n'est pas, aujourd'hui c'est délicat, on rencontre toutes sortes de gens, je pense que ce n'est pas, je ne partage pas le fait que quand certaines jeunes femmes sortent tout de suite au début, à peine qu'elles connaissent quelqu'un, voilà. Et puis j'ai remarqué que les hommes n'apprécient pas ce genre de comportement. Enfin, c'est-à-dire, c'est un comportement qu'ils n'attribuent pas à une femme qui se respecte, une femme sérieuse, disons, voilà, disons-le comme ça. Hein. Mais j'ai un ami quand même et qui habite très loin, et par la force des choses, je ne le vois pas souvent. Et d'ailleurs, il a lui-même, il a peine à croire que je suis seule chez moi, parce que bon, il me dit, mais une femme comme toi, c'est pas possible que tu sois seule. Alors, bon, il est d'ailleurs un peu plus jeune que moi, mais il est vrai que j'aurais souhaité avoir quelqu'un qui soit plus près, d'un point de vue topographique, qui soit plus près de mon domicile, c'est clair. Hein. Parce que des moments de solitude, bon, il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Et je ne peux pas non plus envahir ma fille. Et elle ne comprend pas très bien. Et elle appréhende la solitude. Hein. Bon, elle a son copain.
Mais quel âge a-t-elle ?
Elle a 32 ans.
Mais 32 alors, ans. Elle est toute jeune quand même.
Non, 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 elle a un copain, mais...
Et elle appréhende la solitude, pourquoi ?
Parce que, bon, après, avec son copain, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle souhaiterait. Mais elle appréhende le fait de se retrouver seule, hein. Ça, c'est clair.
Donc, du coup, elle préfère garder le copain qu'elle aime plus
voilà,
ou moins.
Voilà, oui. Oui, ouais. Parce qu'elle appréhende. Alors, je lui fais comprendre que, bon, ben, qu'elle se mette un peu à ma place et qu'elle est. Voilà, il faut assumer, hein, quand on est. Il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. Mais j'en arrive à un point aussi, voyez-vous, aujourd'hui, où je n'aurais pas envie d'avoir quelqu'un qui soit à mes côtés à 24.
Hein. Oui, tout le temps.
Oui, oui, parce que j'ai pas la force des choses, donc j'ai été obligée de. D'être seule contre mon gré et de passer des week-ends, des saisons, des belles journées, tout ça, toute seule. Et il s'avère que maintenant, bon, j'ai pris le pli et je n'aimerais plus être... peut-être aussi parce que, bon, j'estime que, bon, quand on est seul, quand on construit une famille, eh bien, on a des objectifs. Hein, bon, on veut avoir des enfants, on veut construire une famille, voilà, on a... maison ou bien un appartement, peu importe, selon les envies de chacun. Mais passé un certain âge, bon, quand on a ses propres enfants, eh bien, je crois que ce n'est plus... bon, après, c'est... Il est difficile aussi de rencontrer quelqu'un qui vous convienne d'un point de vue de son caractère, qui vous convienne physiquement, puisque... C'est ce que j'explique souvent à ma fille. Moi, je vois ça un peu comme une pyramide. Hein. Quand on est jeune, bon, les jeunes sortent un peu avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Bon, ils font ce qu'ils veulent, ok, c'est le choix de chacun. Mais arrivé à la trentaine, bon, ils sont déjà casés, sans être mariés, mais ils ont des enfants ou les copines leur font un bébé. Hein. Voilà, ils sont coincés. Hein. Et 40 ans, 45 ans, hop, voilà, c'est parti, quoi. Et le choix, il est de plus en plus réduit. Hein.
Mais qu'est-ce que vous leur conseillerez, alors, ces femmes-là, en fait ?
Ben écoutez, je pense que c'est difficile. Les femmes, elles font carrière. Depuis qu'elles font carrière, depuis qu'il y a Internet aussi, le mode de vie n'est plus le même. Hein. Je pense que ça a profondément changé. Les gens ne se côtoient plus de la même façon. Tout se passe par les moyens informatiques. On ne se fréquente plus. On ne se fréquente plus. C'est dommage un peu, mais enfin, le mode de vie...
Qu'est-ce que vous appelez « on ne se fréquente plus » Comment ça ?
Les gens ne se voient plus comme autrefois dans les villages. Bon, les gens prennent le temps de se parler. Voilà, les gens se rencontrent. Aujourd'hui, c'est nettement moins fréquent. Hein. On communique par des moyens, par du virtuel, hein. Essentiellement. Hein.
Oui.
Et les hommes restent à distance aussi. C'est ce que ma fille me dit, les hommes restent à distance.
Ah bon,
bon ça, oui.
Mais votre fille, elle aimerait bien rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple
Peut-être quelqu'un qui lui conviendrait mieux à son tempérament, à ses activités, voilà. Mais le choix est quand même limité quand on arrive à 30 ans, 40 ans. Hein, il est ce qu'il est. Et d'autant plus quand on arrive à l'âge de la retraite. Hein, alors, soit que... Bon, tout le monde est casé, quasiment. Hein. Ou alors, on rencontre peut-être un veuf. Hein. Bon, alors, voilà. Oui. Alors, un veuf, c'est quoi le profil d'un veuf? Eh bien, c'est très souvent quelqu'un qui déplore, qui n'arrive pas à faire le deuil de sa partenaire. Hein. Ça aussi, je l'ai déjà rencontré en ce qui me concerne. Et là, c'est difficile. Ou alors, ce ne sont que la majeure partie des hommes que l'on croise, que l'on rencontre, ils ne sont pas libres. Hein. Donc voilà, quoi, on ne peut pas se projeter. On ne peut pas se projeter dans un avenir, on ne peut rien prévoir de concret, disons. Hein. Mmh.
Voilà. Bon, je vois que vous avez quand même une analyse de tout ça, mais l'important, c'est que vous soyez heureuse, Myriam. Hein
oui, je dirais que je ne suis pas malheureuse, hein, pardon. Être heureuse, c'est quoi? Être heureuse, de mon point de vue, c'est je me ressource dans la nature, hein, je me ressource, je m'intéresse à beaucoup de domaines, hein, donc on m'a souvent dit, attention, quand tu vas être à la retraite, attention de ne pas déprimer, parce que voilà, oh, j'ai des centres d'intérêt, j'en ai énormément, que je n'ai pas encore pu, sur lesquels je n'ai pas pu me pencher tel que je le souhaitais, quoi, parce que bon, je m'intéresse aux langues étrangères, je m'intéresse à nouveau à la musique aussi, et puis j'aimerais bien avoir plus de temps pour moi. Et quand on me dit, est-ce que les petits-enfants, ça ne te manque pas, ça te, voilà, écoutez, on est persuadé que voilà, quand on arrive à la retraite, il faut avoir une grande famille autour de soi, 5-6 petits-enfants, ben, je dois dire personnellement, ça ne manque pas. Mais maintenant, si ma fille avait venu avoir un bébé, enfin, je serais la mamie qui, vous savez, qui pousse le landau, les rollers sous pied, hein, voyez.
Ah oui,
c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça mon style. Hein. Oui.
Yeah.
Mais je dirais, pour l'instant, ce n'est pas un manque pour moi parce que j'ai vraiment besoin de me ressourcer personnellement.
Bon, alors, c'est ce que vous arrivez à faire, visiblement.
Pas encore, hein, je n'y suis pas encore. Non, j'en suis encore loin, je pense. Mais les années passent et je n'ai pas pris conscience que je suis déjà arrivée à 71 ans, voyez-vous.
Oui, ça passe vite, ça passe vite.
Je ne m'en rends pas compte, surtout que je suis relativement en forme. Bon, j'ai quelques opérations, prothèses de hanche et tout ça, mais je fais avec. Hein. Je me dis toujours, bon, bah, y a pire, hein, il ne faut pas non plus se lamenter tout le temps. Hein.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je me complais davantage avec des quinquagénaires hein, que des gens de mon âge, en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça, quoi. Mais pour en revenir à la remarque de cette auditrice, donc il pensait qu'il fallait pardonner quoi qu'il arrive, hein, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Je ne partage pas ce point de vue. Voyez-vous,
non, mais vous pouvez ne pas le partager, Myriam.
Pour moi, je dirais même que quand on est... Parce que j'ai fait l'expérience aussi que... que quand on pardonne. Eh bien, la personne qui bénéficie de ce pardon, eh bien, elle récidive. Hein. Mmh. Très souvent, ce sont des gens qui récidivent tant par leurs propos que par leur comportement. Et pour eux, c'est tout à fait naturel qu'on leur pardonne tout le temps. Moi, je trouve que c'est trop gratuit. C'est la gratuité. Il y a une gratuité dans le pardon qui se répète, qui est malsaine.
Bon, on aura entendu, en tout cas, votre point de vue sur le pardon, Myriam.
Oui. Olivier, si je peux juste rajouter cela,
oui, parce qu'on...
Je dis même que c'est la prostitution morale, voyez-vous.
Ah oui,
c'est
vous y allez quand même. Vous y allez.
Ah oui,
on n'a plus
oui,
que
oui,
30
oui,
secondes, voilà. Ma chère Myriam.
D'accord,
donc, on aura entendu votre point de vue sur le pardon. Hein. Bon, chacun a bien évidemment son point de vue. Vous avez le vôtre. Et plusieurs SMS montrent que certains le partagent. Maintenant, bon, le pardon... n'est pas une chose facile, quoi qu'il arrive. Et malgré tout, moi, je pense que ça peut tout de même nous élever, quelque part. Et toutes les personnes qui ont su pardonner, en fait, m'ont souvent montré que ça a été pas mal bénéfique pour elles. En tout cas, Myriam, je vous remercie beaucoup pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous embrasse et passez une bonne nuit. Au revoir. Il est minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Ce soir, tout cela va passer très vite, donc nous dépêchons d'accueillir Lina au 3921. Bonsoir Lina.
Bonsoir.
Bonsoir Lina. Alors nous nous sommes parlé hier soir brièvement. Je vois que vous avez pu dormir chez votre grand-mère à nouveau.
Oui.
Et on devait donc se parler de la situation que vous affrontez à la maison avec votre mère qui a visiblement beaucoup souffert et souffre encore avec les hommes. Alors racontez-moi ça.
La situation, c'est depuis que j'ai 5 ans, en fait.
Oui.
Donc, depuis que j'ai 5 ans, en fait, je vois ma mère un peu souffrir, entre guillemets, chaque jour, parce que c'est chaque journée, elle souffre. Avec le cas de mon beau-père, parce que du coup, elle s'est mariée il y a 5 ans.
Oui.
C'est très problématique parce que en fait elle aime mon beau-père, mais en fait mon beau-père en fait a perdu son père il y a 4 mois.
Oui.
Mon papy.
Oui.
Et en fait il a remplacé son père en fait du côté de sa mère. En fait, donc du coup, il est tout le temps chez sa mère. Et nous, il nous a complètement délaissés. Il nous a complètement oubliés. Il passe tout son temps avec, ma mamie. Et ma mère, en fait, n'a plus du tout de temps avec son mari. Et en fait, elle lui a dit... Et c'est pour ça, en fait, que là, c'est parti dans un clash total.
Oui. Il y a combien de temps, en fait, il s'est passé ce clash ?
3-4 jours.
3-4 jours ?
Oui,
ça a été
très récent.
Ça a été violent, en fait ?
Ah oui, dans les paroles, oui.
Oui.
Et moi, comme j'ai déjà vécu des scènes violentes physiquement et verbalement, en fait, ça me fait très très mal de ça. Et j'ai appelé pour avoir quelques conseils parce que, en fait, Jean-Marc, mon beau-père, n'arrête pas d'envoyer des pics à ma mère en disant de toute façon, c'est ta faute, t'as jamais su garder une relation saine, t'as fait. T'as toujours raté ta vie avec les hommes. Enfin,
ta fille, quoi ?
T'as toujours raté ta vie avec les hommes.
Oui.
Et donc, c'est très dur, en fait. Et là, ma mère, elle cherche désespérément une autre maison. Et entre guillemets, s'enfuir, c'est ce qu'elle dit. Et... le coup de fil d'hier m'a permis de voir sa réaction aujourd'hui. Et
le coup de fil. Quel coup de fil ?
Enfin, parce que j'avais commencé à vous appeler hier soir.
Oui, d'accord.
Et vous m'avez demandé de rappeler aujourd'hui, donc ça m'a permis de voir aussi les réactions qu'elle avait pendant toute la journée.
Oui.
Et franchement, ça n'a pas changé. Elle pleure tout le temps.
Ça n'a pas changé. Elle nous écoute ce soir, vous pensez ?
Je ne sais pas.
D'accord, mais il écoutera sans doute le podcast s'il ne nous écoute pas. Donc, il est important que vous disiez, vous, comment vous vivez tout ça. Ça vous déstabilise.
Bah oui, forcément, parce que moi, je l'aime beaucoup, en fait, Jean-Marc. C'est comme mon père. Et en fait, du coup, parce qu'on en parlait hier, avec votre collègue. En fait, je suis montée dans le nord par, entre guillemets, désespoir, parce que avant, moi, j'étais lyonnaise.
Oui.
Et donc, il s'est passé quelque chose à Lyon qui nous a fait monter dans le nord, parce que elle s'est paxée avec quelqu'un, et ce quelqu'un lui a jeté une lampe sur la tête. Donc,
oui.
Du coup,
elle est partie.
Chirurgie, hôpital et tout. Donc, elle avait besoin d'oublier cette région.
Oui,
donc, elle est partie rejoindre Calais. Et donc, avec toute la famille et tout. Et en partant à Calais, moi, je me disais, j'allais retrouver un père, parce que je l'avais perdu, mon père, moi, quand je... Enfin, il est pas mort, mais je l'ai carrément perdu de vue. Il m'écrit plus du tout pour mon anniversaire et tout. Et ça, j'en souffre beaucoup. Et
où est-il, votre père ? Où est-il, votre père ?
Alors, mon père, il se trouve à Pau.
Oui.
Il m'a abandonnée à la naissance et je lui en veux beaucoup.
Oui.
Et du coup, Jean-Marc, je pensais que ça allait remplacer mon père. Mais non, parce que il peut pas faire... il n'a pas ce côté paternel, en fait. Il sait pas comment s'y prendre, il a jamais eu d'enfant. Et ça me blesse beaucoup.
Mais c'est normal que ça vous blesse. Bon, il y a plusieurs choses hein, dans ce que vous me dites, Lina. Il y a ce papa qui ne fait plus attention à vous. Donc ça doit être pour vous quelque chose. Mais on y viendra après. Ça, c'est je pense, un des points dont il faut qu'on parle ce soir. Mais d'abord, parlons de votre mère. Vous sentez qu'elle est encore amoureuse de votre beau-père ou qu'elle aussi, elle en a marre ?
Les deux, je pense que là, elle est arrivée
à saturation un peu ?
Voilà, je pense, ouais, c'est ça. Mmh, mmh.
Et c'est une situation qui vous inquiète ou dans laquelle vous avez une idée précise de la décision qu'elle devrait prendre, à votre avis ? Vous pensez que ça serait la bonne solution de trouver une autre maison et de que vous partiez toutes les deux ?
D'un côté, oui.
Ouais.
Mais d'un côté, je me dis... J'étais... Parce qu'en fait, c'est un amour de jeunesse. Parce que ma mère est née à Cali. Mais elle est descendue à Lyon avec mon père. Et donc, du coup, ils étaient... En fait, ils étaient ensemble étant adolescents, ils se sont séparés et se sont retrouvés 30 ans plus tard.
Oui.
Donc du coup, je trouve ça, oui, totalement du gâchis parce que juste pour une histoire de « j'ai pas le temps pour toi », etc. Enfin, je trouve ça vraiment du gâchis de gâcher une si belle histoire. Et oui, donc d'un côté oui et d'un côté non.
Donc, vous êtes plutôt partagé sur...
Voilà, mitigé. Ouais,
mitigé. Mais vous savez, l'important, c'est qu'elle prenne la décision qui va la rendre la plus heureuse. Or, si elle est avec un beau-père, votre beau-père qui ne s'occupe plus de vous, qui déserte la maison et qui est tout le temps fourré chez sa mère, il va falloir qu'il y ait un électrochoc qui se passe. Donc, ça vous effraie de partir de la maison à nouveau, de déménager ?
Alors oui, parce que justement, ouais, ça va me faire des flashbacks en fait de quand j'étais petite. Mmh.
Et vous êtes au lycée, vous ? Qu'est-ce que vous faites ?
Oui, je suis au lycée, ouais.
D'accord. Vous êtes en quoi ? En première, terminale ?
Non, seconde.
Seconde. Non, mais je comprends que ça vous impacte. Ça n'est jamais agréable de voir sa maman pleurer. Quoi qu'il arrive.
Non.
Maintenant, il faut que vous vous protégiez de tout cela parce que ça reste des histoires d'adultes. Hein, Lina.
Ouais.
Ce sont leurs histoires. Vous avez toute la vie devant vous. Hein, et dans quelques temps, vous volerez de vos propres ailes. Et il faudra surtout bien garder l'enseignement que vous aurez tiré justement de toutes ces expériences. Avoir votre mère souffrir, avoir votre mère subir un peu, visiblement, un peu le diktat des hommes. Et il faudra vraiment que vous renforciez et que vous soyez méfiante par rapport à tout ça. Hein ?
D'accord.
Il faut que vous pensiez à vous dans cette période et dans cette situation. Parce que ça reste des histoires d'adultes, comme je vous l'ai dit. Et que ces histoires d'adultes vont se régler entre adultes et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement vous donner votre avis à votre mère sur la situation. Soit vous pensez que prendre une autre maison, là, momentanément, hein, ça peut être momentané, pas définitif. Est-ce que ça n'est pas la solution pour tempérer un peu cette situation qui me paraît un peu explosive ? Et est-ce qu'au final, une décision comme celle-là pourrait faire bouger votre beau-père et le faire percuter que bah, quand on est marié et qu'on a une femme et une fille à la maison, on s'occupe de sa famille. Si lui n'a plus du tout cette envie-là, ça traduit quelque chose qui ne va pas entre vos parents. Et je pense que votre mère, il faut qu'elle récupère un peu ses esprits. Et pour récupérer ses esprits, il ne faut pas rester dans une situation entre deux, vous voyez, à attendre.
Oui.
À attendre que cet homme rentre à la maison, attendre qu'il se passe quelque chose. Parce que visiblement, de ce que vous avez entendu il y a 4-5 jours, il remet la faute sur votre mère.
Oui, oui, totalement.
Il lui reproche quoi, en fait ?
Il lui reproche que en fait elle n'est pas disponible pour lui, que elle fait pratiquement tout mal sans que dans ses relations amoureuses, en fait, avant, c'était sa faute. Donc, c'est vraiment relation au passé de ce qui se passait avant. Et donc, du coup, même moi, je suis perdue dans ces histoires, en fait, à vrai dire.
Oui, mais parce que vous y pensez beaucoup trop, hein, Lina. Il faut vraiment que vous concentriez sur vous, sur votre vie à vous, sur vos études, votre vie à vous. Hein. Essayez d'avoir conscience que ce sont des histoires d'adultes, encore une fois, et que, et que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose à part parler à votre mère et lui dire ce que vous pensez de la situation. Ça, vous pouvez. Vous en avez le droit. Hein. Si... vous estimez que votre beau-père ne la rend plus heureuse, qu'il la fait trop souffrir, que un break, peut-être un break ferait du bien à tout le monde. Est-ce qu'il rentre à la maison ?
Oui. Mais c'est vraiment façon hôtel, en fait. Parce que,
il rentre le soir. Quoi.
Il rentre le soir et il part toute la journée du samedi dimanche et puis il rentre le soir pour manger.
Et vous, dans tout ça, si vous ne vivez plus avec cet homme demain, vous avez peur de perdre un repère, quelque chose, un équilibre ?
Totalement, totalement. Parce que, je sais pas, j'ai cru, moi, en fait. Enfin, je veux dire. Parce que du coup, moi, c'est du côté aussi sentimental, beau-père, papa.
Oui, mais... vous remplacez un peu votre père par ce beau-père, non ?
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup...
Vous l'aimez bien ?
Oui.
Et vous avez de bons rapports avec vous ?
Même si des fois, il est un peu violent verbalement avec moi, mais...
Il est violent avec vous verbalement ?
Oui.
C'est-à-dire ? Dans quel type de situation, par exemple ?
Quand il veut que je comprenne quelque chose, par exemple, en télétravail, je fais beaucoup de, entre guillemets, télétravail, de visio pour mes cours, et en maths, j'ai des problèmes des fois, et quand j'y arrive pas, il me dit « mais t'es nul, je comprends rien » et tout, sachant que moi, je suis multidis, donc dyscalculique qui est hyperactif. En fait, il arrête pas de me dire « mais t'es nul, je comprends pas, tu le fais exprès ». Enfin, il est violent.
Il ne comprend pas que vous soyez multidis et que pour vous, les maths, ça soit abstrait totalement.
Ouais,
Rassurez-vous, moi j'étais mal, j'étais nul en maths, hein. Mais nul. J'ai jamais rien compris en maths. Même pas à quoi ça servait, pour vous dire. Alors que je sais que ça sert à beaucoup de choses, hein. Mais j'ai, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, comment, tout ça, quoi, en fait. Et quand on n'est pas doué pour les maths, c'est compliqué de choper le truc.
Oui.
Mais je pense que cette situation, en fait, je comprends que vous ayez peur de perdre un repère. Vous avez connu cet homme, vous aviez 12 ans, en fait, où il était depuis longtemps avec votre mère quand ils se sont mariés.
Bon, en fait, c'est venu nous voir une semaine sur deux à Lyon. Et donc, ouais, j'avais 9 ans quand on s'est connu.
Mmh.
Donc ouais,
vous le connaissez depuis longtemps.
Oui.
Donc je comprends que vous ayez peur de perdre quelque chose, de perdre un repère et d'être obligé de soit d'être seul, soit de recommencer quelque chose. Mais le rapport que vous avez avec votre mère, vous parlez beaucoup avec votre mère, vous échangez beaucoup. Quel rapport vous avez avec elle? Elle vous écoute un peu?
Oui, elle m'écoute. Oui, mais en fait, j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur de la vexer, j'ai peur de dire quelque chose de travers, j'ai peur.
C'est normal. Donc,
ouais.
C'est normal, comme je vous l'ai dit, ce sont des histoires d'adultes. Donc, vous mêlez de ça, c'est compliqué pour vous.
Oui, c'est surtout parce que ma mère, des fois, me demande des avis sur leurs disputes, mais moi, je me suis un peu perdue parce que je me dis... Bah, j'ai pas bien écouté parce que du coup ça me regarde pas, mais du coup je dois toujours avoir une oreille dans leur dispute. Mmh. Parce que des fois ma mère me demande t'es d'accord avec qui, c'est qui a fait ça, enfin du coup elle m'intègre un peu à leur dispute.
Quel âge a-t-elle votre mère?
50 ans,
d'accord. Non, moi, je pense que vous devez essayer de rester à votre place. Et votre place, c'est tout de même de dire à votre maman, quand elle vous demande votre avis, que vous avez du mal à le donner parce que vous avez l'impression d'être une adolescente et que vous êtes tiraillée. Il ne faut pas avoir peur de lui dire comment vous vivez la situation. Que vous avez peur de perdre un repère, elle arrivera peut-être à vous rassurer hein, là-dessus, hein, je ne sais pas, elle trouvera peut-être les mots. Maintenant, maintenant le conseil pour elle que vous demandez, je vous l'ai dit, je pense que si elle est malheureuse et que vous la voyez malheureuse, peut-être pouvez-vous lui soumettre de parler une nouvelle fois à votre beau-père pour lui demander ce qu'il veut réellement, essayer de déclencher cette réflexion en elle, de pouvoir expliquer à votre beau-père qu'elle est malheureuse, que... Est-ce qu'elle a vraiment envie de partir, votre mère, ou est-ce qu'elle est partagée, elle aussi? Est-ce qu'elle se pose plein de questions?
Ben, forcément, elle se pose des questions.
Oui, si elle vous pose des questions, c'est qu'elle s'en pose, remarquez.
La dernière fois, on a fait 2h30 de vélo et elle regardait que les appartements en disant « cet appartement serait bien, ou, oh, c'est dommage qu'il ne soit pas à vendre ». Donc du coup, je pense qu'elle veut vraiment chercher un appart. Mmh.
Elle a les moyens de pouvoir déménager comme ça, ça va? Elle travaille, tout va bien de ce côté-là?
Elle travaille, mais je ne sais vraiment pas si elle a les moyens.
Mmh. Que fait-elle dans la vie?
Elle est professeure de français.
D'accord.
Au collège.
Ok. Oui, donc elle est fonctionnaire et ça doit être possible pour elle de déménager.
Oui.
Et votre père fait quoi? Votre beau-père?
Il travaille à Vinci, il est cadre.
D'accord. Et donc, il ne rentre que le soir, en fait. Est-ce qu'il rentre pour le dîner ou est-ce qu'il rentre après le dîner?
Non, il rentre pour le dîner, ouais.
Et il rentre au dîner, quand même.
Oui.
Et là, en fait, vous n'étiez pas à la maison depuis le... depuis la prise de bec il y a 4 jours. Est-ce que vous les avez revus tous les deux ensemble?
Alors oui, mais ils se parlent pas du tout.
Ouais.
Ils se mettent de chacun de leur côté. Donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner un peu de la maison pour faire une pause, parce que...
Oui, vous avez raison.
Pour mes cours et tout, c'est compliqué à suivre parce que, du coup, ça crie partout dans la maison.
Ouais. Et vos grands-parents? Vos grands-parents, est-ce qu'ils savent ce qui se passe là-bas? Est-ce que...
Ma mère veut pas trop que j'en parle, mais moi, comme je suis fusionnelle avec ma grand-mère, je lui en ai parlé.
Et elle en pense quoi, votre grand-mère?
Elle s'inquiète beaucoup parce qu'elle lui avait dit... parce que, du coup, avec tout ce qui s'était passé avant avec les aventures précédentes, elle lui avait dit c'est un peu trop tôt pour te marier, tu devrais faire attention, enfin, apprendre à le connaître vraiment. Donc elle l'avait mise en garde, mais...
Oui, mais ça recommence là, en fait.
Ouais.
Votre grand-mère, elle doit avoir peur aussi que votre mère soit malheureuse à nouveau.
C'est ça.
Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, Lina. Si votre mère... vous dites, tiens, cet appartement, il serait bien. Si elle a ce type de réflexion, c'est qu'elle en a marre. Elle a envie de partir. Moi, je pense vraiment qu'elle n'ose pas partir. Mais je pense que là, elle est malheureuse parce qu'elle vit une fin d'histoire. C'est souvent ça, la vie. Hein. Voilà, on se rencontre, on s'aime, et puis les années passent, et puis il y a une érosion. Parfois, ça se passe bien, mais parfois, ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, certains couples mettent beaucoup de temps à se séparer et à regarder la situation en face. Et finalement, à travers les mots, vos mots ce soir, on a l'impression que vous décrivez un couple, ce couple de votre mère et de votre beau-père, qui est arrivé au bout d'un cycle, puisqu'ils ne se parlent plus. Comme vous dites, votre beau-père qui va chez sa mère en permanence, ça traduit quand même une non-envie de rentrer chez lui, en fait.
Oui. Parce que parce que ma mère lui reprochait beaucoup d'être chez sa mère. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais tout le temps chez ta mère? Il répond, je vais boire le café, parce qu'elle, au moins, elle a la conversation, elle parle et elle m'ennuie pas. Donc,
Ce qui n'est pas vraiment sympa de dire ça.
Non, hein, pas du tout.
C'est un peu la rabaisser. Quand même.
Ouais.
Et lorsque vous dites que ça crie beaucoup à la maison, c'est qu'ils se font des reproches mutuellement?
Oui.
C'est compliqué pour vous, hein, de vivre cette situation. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de rester un peu chez votre grand-mère, justement?
Oui.
Ouais. Ouais. Et vous vous sentez mieux chez votre grand-mère?
À vrai dire, c'est pas pareil, parce que tout le monde aime bien être chez soi. Mais dans ce moment-là, oui, c'est rassurant pour moi.
Mmh. De quoi vous avez envie, là, dans les jours qui viennent, Lina? Est-ce que vous avez envie de rester chez grand-mère, éviter justement cette ambiance lourde à la maison, éviter les prises de bec, et vous rester éloigné de ça? Est-ce que c'est de ça dont vous avez envie? Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que vous pensiez à vous, Lina. En plus, je vais vous dire, en montrant cela à votre mère comme à votre beau-père, c'est-à-dire en montrant que vous en avez ras-le-bol de cette ambiance lourde à la maison, vous pouvez de cette manière influer sur le cours des choses. Parce que j'entends que lorsque votre mère vous demande votre avis, vous êtes dans un conflit de loyauté, puisque vous aimez bien votre beau-père. Mais que j'ai entendu quand même que vous vous préoccupiez beaucoup plus pour votre mère, finalement. Et c'est normal, c'est votre maman. Hein, même si vous aimez bien votre beau-père, vous avez le droit de bien aimer votre beau-père, mais votre maman reste votre maman et vous y êtes plus attaché, naturellement. Donc, déjà partant de ce principe, ce qui prime, et ce qui doit être clair dans votre esprit, c'est que ce qui prime, c'est le bien-être de votre mère.
Oui.
Et en cela, il faut que vous vous rangiez de son côté, et que vous l'aidiez à prendre une décision mais tout simplement en lui disant ce que vous pensez, en lui disant que vous souffrez de cette situation et que vous préférez pour l'instant rester chez votre grand-mère parce que c'est assez insupportable pour vous et que vous avez votre vie à mener, que vous avez déjà d'autres choses aussi qui vous préoccupent, comme ce père qui ne s'occupe plus de vous, qui vous a abandonné et qui ne vous écrit même pas pour votre anniversaire. Ça aussi, il va falloir travailler dessus, Lina, parce que ça va être très important d'essayer de vous défaire de l'attente que vous avez par rapport à cet homme. Parce que vous savez, vous êtes là, vous avez la vie devant vous, vous avez 17 ans. Et il va vous falloir comprendre, entendre, mais surtout comprendre qu'il y a des hommes qui n'assument pas leur paternité et qui sont comme ça. Et bien évidemment, ça n'est pas facile, mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque je vous dis que votre vie est devant vous, c'est que vous ne le savez pas encore, vous ne savez pas qui c'est, où il est en ce moment, mais il y a un garçon quelque part qui tombera amoureux de vous, dont vous tomberez amoureuse et vous construirez votre vie. Et puis peut-être avant ce garçon, il y aura peut-être un, deux, trois garçons autres avec qui ça ira un moment et puis ça n'ira plus. Mais il faut vraiment que vous vous concentriez sur vous et que vous n'alliez pas chercher dans ce beau-père un nouveau père parce que je pense qu'il doit faire ce qu'il peut, hein, cet homme-là. Mais, oui. Mais il n'est pas votre père, au final.
J'ai du mal.
Vous avez du mal à entendre ça ou vous avez du mal à comprendre ça?
En fait, j'ai du mal à faire... En fait, oui, un peu. J'ai du mal à entendre ça parce que du coup, parce que il m'avait fait plein, enfin, au tout début de la relation avec ma mère, il m'avait dit pour tes 18 ans, je t'adopterai et tu porteras mon nom.
Oui.
Et donc, du coup, là, j'ai vraiment trouver un père en fait que j'ai cherché depuis longtemps.
Oui, oui, je comprends.
Et là, je me sens encore abandonnée, donc ouais. C'est compliqué.
Vous pensez qu'il a changé d'avis?
Je pense parce que, en fait, la relation que moi avec mon beau-père on avait avant, elle a complètement évolué, changé. Il me porte plus vraiment attention. Mmh. En fait.
Ce moment, Lina, il traverse peut-être une période peut-être compliquée. Vous savez, comme vous me dites qu'il a perdu son père il n'y a pas longtemps, qu'il a besoin d'être proche de sa mère parce que peut-être s'inquiète-t-il hein, pour sa mère, qu'en ce moment, il trouve du réconfort auprès de sa mère. Tout ça est peut-être... une étape dans le deuil qu'il fait de son propre père à lui. Oui. Et il ne faut pas que vous vous disiez qu'il vous abandonne ou qu'il fait moins attention à vous. Il a peut-être dans la tête des problématiques à lui à résoudre avant de réatterrir et de voir la situation un peu plus clairement, vous voyez, parce que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette relation, Lina.
Oui.
Je pense que vous, il faut que vous lui montriez que vous êtes neutre dans tout ça. Il faut que, en tout cas, que dans votre rapport à lui, que cette situation n'impacte pas vos relations à tous les deux.
D'accord.
Mais maintenant, c'est compliqué si votre mère vous demande tout le temps si elle vous sollicite pour savoir qui a raison, qui a tort. Et c'est pour ça que cette position de neutralité qui est d'habiter chez grand-mère en ce moment et de communiquer à l'un comme à l'autre que cette situation, elle vous fait du mal, elle vous déstabilise, elle vous rend malheureuse. Peut-être ça peut vraiment, ça se tente, ça peut vraiment avoir un impact sur le couple, votre mère et ce beau-père qui vont peut-être se poser les bonnes questions. En tout cas, je l'espère. Mais si vous avez envie, si vous avez quelque chose à faire là, c'est... de être dans une position de neutralité et la chance d'avoir votre grand-mère tout près, c'est pas mal, moi, je trouve.
Oui, je trouve
que... Mmh. Ouais, vous avez l'air de me dire que vous y sentiez bien chez votre grand-mère.
Oui, oui. Parce que la dernière fois, pendant une dispute, ils se sont disputés à 2h du matin. Mmh. Ils n'étaient pas du tout couchés. Et pour moi, ils ont eu une attitude, désolée pour le mot, mais une attitude de gamin, parce que ils se sont disputés en pleine dispute. Ils m'ont appelé comme si ils appelaient leurs parents. Ils ont dit « Lina, viens ». Et moi, 2h du matin, j'étais en train de dormir et le lendemain, j'avais cours.
Et pour vous prendre un témoin ?
Pour me prendre un témoin, effectivement, oui.
Ouais.
Et c'est énervant, quoi.
Oui, et puis ça n'est pas très... vous avez raison, ça n'est pas très mature de demander à la petite Lina de 17 ans de dire qui a raison et qui a tort.
Ben voilà, c'est ça.
Vous le leur avez dit ?
Ben, j'ai pas osé, mais... Mmh. J'en pense pas, moi. Mmh.
Moi, je vais vous dire mon conseil, vraiment, mon conseil ce soir, c'est cette neutralité. Et c'est d'essayer de rester chez votre grand-mère. Si votre mère vous appelle, vous pouvez lui dire que vous en avez marre de cette situation, que vous avez besoin de calme, hein, que vous l'aimez, mais que voilà, ces histoires-là, ce sont des histoires d'adultes et qu'il faut qu'ils résolvent leurs histoires d'adultes, mais que vous ne voulez pas être au milieu. Et si vous vous sentez de le dire à votre beau-père, c'est aussi bien de lui montrer que vous êtes neutre. Mm. Vous voyez ? Et de rester un moment, rester une petite semaine chez votre grand-mère. Mm. C'est possible,
d'accord.
Ça ? Oui. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est possible.
Vous me redonnez des nouvelles de la suite ?
Oui.
Hein ? N'hésitez pas à m'appeler la semaine prochaine pour me dire comment ça se passe.
D'accord.
Parce que la situation, là, on sent qu'elle est bien à vif, donc... il va y avoir des choses qui vont se passer.
Oui.
D'accord ? Ouais. Donc, vous me rappelez, ok ?
D'accord.
Alors, décision, je reste un peu chez grand-mère pour montrer à tout le monde que moi, j'ai besoin de calme. Ouais. Je vous dis, ça peut éventuellement les impacter et qu'ils réalisent vraiment qu'en ce moment, pour vous, c'est compliqué et qu'ils fassent des efforts donc, par rapport à ça.
Oui.
D'accord ? Je compte sur vous pour me rappeler, pour me donner des nouvelles.
Oui, d'accord.
Très bien. N'oubliez pas qu'on est là maintenant, d'accord ?
D'accord, merci beaucoup.
Bonne nuit.
Merci.
Au revoir, Lina.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Minuit 40 sur Europe 1. C'est toujours... oui, c'est toujours difficile, une situation comme celle-là où les enfants sont au milieu. Et là, avec Lina, on vient de voir combien... on parle souvent de conflits de loyauté dans cette émission. On parle souvent de ces couples qui se déchirent. Et on voit combien les enfants au milieu sont sollicités, hein, comme Lina vient de nous l'expliquer. Et combien, vous voyez, combien ça met dans leur tête quelque chose qui n'est pas... très sain. Et on sent que Lina aime bien son beau-père et qu'il y a maman de l'autre côté qu'elle aime aussi. Et voilà comment on se retrouve dans un conflit de loyauté à 17 ans, à un âge où on devrait avoir les yeux tournés vers l'avenir et puis vers des choses plus agréables, plus légères. En tout cas, on ne manquera pas de vous donner des nouvelles de Lina. Je pense qu'elle va nous rappeler la semaine prochaine. On accueille Saïda maintenant, au 39-21. Pardon. Bonsoir Saïda.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous, Saïda ?
Je suis un petit peu stressée.
Eh bien alors, pourquoi ça ?
Parce que, bon, je vous avais appelé il y a quelques mois au sujet des handicapés, sur le regard des handicapés, puisque moi j'étais née. Et là, je vous appelle, oui, je suis stressée, et là, je vous appelle pour sur les mariages arrangés.
D'accord, et pourquoi cela
donc,
alors ?
Donc voilà, je vous explique, donc je m'appelle Saïda, j'ai 65 ans, et... nous, on est arrivé en France avec ma famille en 59. Donc, en pleine guerre d'Algérie, mon père est arrivé en 57. Mmh. On est arrivé 2 ans après, il nous a rapatriés. Et au sujet des mariages, donc on est 9 enfants. Et mon père a une fille d'un premier mariage, donc 10. Mais c'est surtout les 9 enfants, puisque on la connaît, notre demi-sœur, mais elle n'a pas trop vécu avec nous, puisqu'on habite en France. Et donc, par rapport au mariage, donc, ma mère était pas du tout stricte, mais beaucoup plus sévère quand même par rapport à mon père, et puis qu'il ne fallait pas sortir à une certaine heure, que quand on sortait de l'école, il fallait tout de suite aller à la maison, pas de maquillage, pas parler aux garçons, encore moins leur faire la bise. Et mon père, c'était tout le contraire. Profiter de la vie, aller à Tahiti si vous avez la possibilité, aller au cinéma, enfin bref, c'était des parents chouettes, parce que mes parents sont décédés maintenant. Et donc, quand... Allô ?
Oui, oui, je vous écoute.
Ah oui, parce que j'ai vu un blanc, là, je parlais.
Non, non, mais je suis tout oui.
Oui, excusez-moi. Donc, quand ma sœur a eu 25 ans, et à l'époque, c'était tard quand une fille se mariait à 25 ans, on a marié ma sœur, mais c'était un mariage arrangé. Mmh. Ce sont des voisins qui ont dit à ma mère, « Votre fille me plaît, est-ce qu'on pourrait la donner à un garçon qu'on connaît ?»
La donner.
Et donc ma mère a accepté.
Oui.
Elle a dit oui, sans demander l'autorisation à ma sœur. Je trouve ça aberrant, mais bon, c'était comme ça.
Mmh.
Et à un moment, ma sœur, je me souviens, j'étais jeune, elle avait dit non, finalement j'ai réfléchi, je ne veux pas me marier avec ce garçon, tout simplement, je ne veux pas me marier pour l'instant. Et ma mère a dit non, nous avons donné notre parole, tu te marieras avec lui. Donc
et
ça,
alors,
c'est un premier mariage arrangé.
Et la suite,
ça m'a fait de la peine.
Elle a été obligée de se marier, donc ?
Oui.
Oh là là.
Oui, malheureusement. Moi, je n'étais pas assez grande pour la défendre.
Mm-hmm.
Moi, je l'ai défendue, par contre, pour son divorce. Puisqu'il y a eu divorce.
Ben oui, mais les mariages arrangés, c'est souvent ce que ça
voilà.
donne aujourd'hui. Hein.
Malheureusement.
Ben
elle
oui.
est restée, elle a eu 2 enfants. Elle a voulu repartir en Algérie pensant que c'était l'Algérie de son enfance quand elle a quitté à 9 ans. Et elle s'est trompée et elle est restée 1 an. Et elle est revenue et ils ont divorcé.
Elle est repartie en Algérie avec lui.
Et ce qui est le plus triste, Olivier, c'est qu'elle aurait pu refaire sa vie. Parce qu'à l'époque, elle avait 37, 36 ans.
Oui.
Donc, elle avait largement le temps de refaire sa vie. Et elle ne l'a pas fait.
Mais...
Donc, ça me fait de la peine pour
ben
elle.
Oui, bien sûr.
Parce et qu'elle n'a pas été heureuse.
Lorsqu'elle est retournée en Algérie, elle y est retournée avec son époux ou toute seule ?
Oui, elle est repartie parce que son mari était resté sans travail parce qu'il avait eu un accident de travail.
Oui.
Il était tombé sur la tête et il avait un travail un peu difficile. Donc, il était en arrêt, en longue maladie. Et donc, ils ont décidé, au lieu de rester en France, comme mes parents avaient construit une maison, et c'est ma sœur qui l'a décidé, elle lui a proposé, elle lui a dit, si tu veux, eh ben, puisque là-bas, il y a la maison de mes parents, on essaye d'y aller, puis si ça ne va pas, on reviendra. Je ne sais pas trop ce qui s'est dit, mais je pense qu'elle s'est dit, je serais peut-être plus heureuse là-bas dans la mesure... Ou quand elle est venue à 9 ans, elle ne voulait pas venir en France.
Oui.
Elle voulait venir rester avec notre grand-mère. Donc dans sa tête, elle avait l'Algérie de sa petite enfance. Alors que et elle s'est complètement trompée.
Oui.
Parce que quand on a 9 ans et qu'on quitte un pays, et quand on y retourne à 30 ou 35 ans...
Non, c'est pas la même.
On n'a pas la même vision des
Mais
choses.
Non, bien sûr. Bien sûr.
Oui, petite fille et adulte. Mariée et 2 enfants, ça n'a rien à voir.
Mmh, mmh.
Et elle a souffert pendant 1 an, finalement. Et mon père a eu du mal à la rapatrier. Parce que lui, son mari est resté. Et c'était compliqué de la faire revenir, mais il a réussi.
Parce qu'il avait
et
la
donc,
nationalité
elle est revenue
algérienne.
Chez mes parents avec ses... Pardon ?
Elle avait la nationalité algérienne ?
Elle a toujours gardé jusqu'à maintenant, oui. Elle n'a jamais voulu la nationalité française.
Mmh.
Oui. Et donc, ça me fait de la peine pour elle. Parce qu'elle n'a pas eu déjà une fille facile, et puis elle n'a pas eu un mariage heureux, et elle n'était pas contente parce qu'en plus, il était illettré. Est-ce qu'on dit illettré ou analphabète quand on ne sait pas lire ? écrire, je ne sais jamais.
Illettrée, je crois.
L'un ou l'autre, je ne sais jamais.
Je ne sais pas, vous me posez une colle.
En tout cas, elle était déçue parce qu'il ne savait ni lire ni écrire, quoi. Donc elle me dit, tu te rends compte ? Encore, s'il savait encore lire et écrire.
Enfin, il était analphabète, me dit Florian.
Ah, voilà.
L'analphabète n'a jamais appris à lire ou à écrire. Alors
voilà.
Qu'on lit les traits,
n'a jamais réussi à apprendre. Alors que ma sœur était très intelligente, première de la classe. À l'époque, c'était le certificat d'études. Donc, elle avait eu son certificat d'études. Et elle, par rapport à moi, c'était une fille très réservée. Moi, je suis tout le contraire. Et donc elle, c'était mariage arrangé. Oui. Et le deuxième mariage arrangé sur les 9 enfants, il y en a eu 2. C'est un de mes frères, pareil. Ma mère cherchait toujours à marier mes frères. Donc il arrivait à 30 ans, donc pareil, elle a trouvé quelqu'un. Par contre, une fille d'Algérie. Et à l'époque, avec le voile, et je vous assure qu'à l'époque, avec le voile, c'était très très compliqué. Parce que c'était les années 90. Ça n'a rien à voir avec maintenant où il y a beaucoup de femmes voilées.
Oui. Vous en pensez quoi, ça, de ça, d'ailleurs ?
Ah, mais moi, je suis horrifiée. Moi, je suis... Ça me rend malade pour eux. Parce qu'il n'est pas heureux, même maintenant, jusqu'à maintenant.
Et il y a encore beaucoup de mariages arrangés. Hein, ça y a...
Oui, oui, oui. Les seuls mariages non arrangés, moi, mon problème, c'est que j'étais handicapée. Donc, moi, je me suis dit, je n'aurais pas ce souci, puisque je ne me marierai jamais. Je n'aurais pas d'enfant, j'ai pas envie de rendre un enfant malheureux. Finalement, je me suis mariée parce que c'était le destin. Mais moi, en mariage arrangé, c'était tout de suite non. Ça aurait pas pu marcher. Ma mère, elle aurait pas pu le faire avec moi. Parce que j'étais la fille... je suis une fille un peu révoltée. Comment dire, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Ma sœur est plus réservée... Peut-être la peur des parents, parce que j'avais un père très, très dur, que moi, non. Moi, je ne devais pas me marier, je me suis mariée. Je ne voulais pas d'enfant pour ne pas le faire souffrir. J'ai un enfant de 33 ans. Et puis voilà. Et puis, il me quitte. Et je suis peinée. J'ai presque envie de pleurer parce que j'arrive pas à le dire.
Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire ?
Il vient de me quitter au bout de 40 ans.
Ah, et vous avez du mal alors ?
Oui.
Et il vous a quitté pour une femme, en fait, pour refaire sa vie ?
Oui, il s'est marié il y a 15 jours.
Wow, c'est maman quand même, hein, quand même. On laisse le petit de 40 ans partir et on a de la peine. C'est très mignon.
Non, mon fils, c'est 40 ans de vie commune.
Mais oui, je sais.
Ça me peine beaucoup et... J'étais persuadée qu'un dans un couple, ce qui est drôle, c'est que déjà, je ne pensais pas me marier. Et ce qui est bizarre dans la vie, c'est que ma mère, à l'époque, quand je l'ai fréquentée, on me l'a présentée, je disais non, non, non. Il a fini par me dire si on essaye. J'ai dit allez, ok, ça va durer 1 an, 2 ans. Ça sera une aventure, on n'en reparlera plus. Et on a continué à rester ensemble. Je voulais pas d'enfant, et puis au bout de 3 ans, je veux un enfant. Tous mes copains ont des enfants. Moi, je dis oui, mais moi, j'ai une maladie évolutive, ça va être compliqué, mais je serai là. Donc, au bout de 5 ans de vie commune, j'ai fait un enfant. Il faut dire que moi, je me suis pas mariée civilement. J'ai fait un mariage que religieux. J'ai jamais voulu aller à la mairie, moi. Et ma mère, à l'époque, quand elle m'a dit, il faut vous marier, parce que tu comprends, ma fille... Ça fait 2 ans que tu le fréquentes, il y a les candidats. Ok, on a fait un mariage très simple, religieux. Et elle me dit, je préfère que tu fasses un mariage religieux parce qu'il risque de te faire un enfant et de se barrer. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il m'a fait un enfant, il m'a laissé au bout de 40 années de...
D'accord,
de
c'est
incroyable.
Il est parti.
C'est incroyable, ouais. C'est incroyable.
C'est incroyable, ouais.
C'est pour ça que je ne suis pas bien, finalement, parce que quand j'avais appelé la Libre Antenne, c'était il y a une semaine, et je savais qu'il allait se marier. De toute façon, il est parti en Algérie, il l'a pris là-bas, mais je ne savais pas qu'il s'était marié. Et du coup, là, je vous parle, et du coup, je me dis, mince, finalement, moi, j'ai pas peut-être fait un mariage arrangé, Je l'ai choisi, il m'a choisi. Et ce qui me peine, c'est que c'était peut-être pas arrangé, mais finalement, ça a capoté. Pourquoi? J'en sais rien. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je sais pas. Je sais pas. Donc là, je suis dans le déni, parce que c'est tout récent. C'est tout récent.
Et il est parti, il est heureux là,
bah, disons que c'était quelqu'un qui partait régulièrement en Algérie.
Oui.
Et puis au mois de novembre, avant le Covid, au mois de octobre dernier, il m'a dit, écoute, moi j'ai l'intention de me remarier. Tu sais très bien que dans la religion musulmane, nous avons le droit à 4 femmes. Je lui fais, écoute, tu pourrais même en prendre 10 dans la mesure où tu les assumes. Il faut d'abord assumer la première,
ben oui,
et assumer la deuxième, et tu as le droit à 4 femmes si les 4 sont d'accord l'une entre elles. Tu en prends une deuxième, mais il faut demander l'autorisation à la première. Donc moi, il m'a dit gentiment, oui, comme tu es malade, je vais prendre une femme et elle viendra habiter avec nous. Je lui fais, mais même pas dans tes rêves. Ça, c'est là que tu es en train de m'enterrer vivante. Que tu te maries, c'est une chose. Que tu n'aies plus de sentiments, plus d'amour pour moi, c'en est une autre. Mais que tu te maries, mais en dehors de mon chemin. Après, c'est bye-bye et tu ne me reverras plus.
Ah oui, mais vous avez bien fait parce que...
Je ne fais pas de ménage à 3.
Ben non, et en fait... Lorsqu'il vous dit « je vais me remarier ».
Lorsqu'il m'annonce ça au mois d'octobre, au bout de 2 mois, moi affolée, je ne suis pas bien, au bout de 2 mois, je dis « est-ce que c'est toujours d'actualité ?» puisqu'il ne m'en reparle plus après.
Mm-hmm.
Donc il me dit toujours, j'en reparle 3 mois après, est-ce que c'est toujours... Oui. Entre-temps, il la connaissait, donc ça ne pouvait être que d'actualité, mais je l'ai su il n'y a pas longtemps. Il la connaissait déjà, il avait déjà fait son petit... Il avait déjà fait sa mayonnaise.
Ah ouais, il avait déjà fait
il
son
truc.
Il
avait déjà préparé le terrain. Et
il est gonflé, hein, quand même. Hein.
Oui, je suis trop gentille, on me l'a reproché souvent. Ben, c'est une trahison. C'est de la lâcheté, de la trahison. Et je m'aperçois qu'il a volé ma vie, finalement. Alors, il me dit, mais non... T'as eu des bons moments et puis t'as fait un enfant. Tu n'es pas dans ma situation, tu ne peux pas comprendre.
Non, mais je pense que...
Et le pire dans l'histoire, Olivier, c'est que c'est même pas lui qui me l'annonce, qui s'est marié il y a 15 jours. C'est son cousin. Comme une idiote, ça fait 2 mois qu'il est parti. J'appelle son cousin et je lui fais, bah, t'as des nouvelles de mon mari, est-ce que tu sais, es-tu au courant qu'il a l'intention de se marier? Fait non seulement je suis au courant, mais il s'est marié il y a 15 jours. Ah oui, j'ai dit d'accord. Bon, bah, comme je vais pleurer un bon coup, je raccroche et je te rappellerai. Oui, il a dû partir parce que normalement, les avions sont... À cause du Covid, c'est fermé, les frontières. Mais comme son frère est gravement malade, il a pu partir. Mais moi, dans ma tête, c'est il part pour voir son frère. Il part pas pour se voir son frère et chercher une femme. Dans ma tête, il va voir son frère, il va rester à moi, 2 mois, il rentre.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, et après, il cherchera sa douce ou sa nouvelle compagne, ça, c'est pas un problème. Non, il a fait d'une pierre 2 coups. Je cherche mon frère, et comme il la connaissait déjà, en même temps, je fais le mariage. Et c'est ce qui m'attriste le plus, et là, je suis actuellement dans le déni. Il me faut du temps, il va falloir 3 ou 4 mois avant d'accepter.
Oui, mais vous avez raison, en fait, il faudra... Prendre le temps de tout ça.
Voilà, c'est comme quand on perd quelqu'un de cher, il y a le déni, comme on dit, il y a la colère et il y a l'acceptation.
Mmh.
Donc je suis dans la situation du déni. Non seulement je suis dans la situation du déni, mais je suis encore très, très... j'ai encore du mal à y croire, mais en plus, de la façon dont... Comme on dit, il m'a tourné, il m'a entubé carrément.
Ouais, ouais, ouais.
Je me suis fait avoir comme une idiote dès le départ, finalement.
Parce que
jour où il m'a connue, ben, il avait en tête, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. J'en arrive à me dire, il ne m'a jamais aimé, il a peut-être eu des sentiments, mais je pense qu'il n'a pas été amoureux. Voilà.
Il a peut-être été amoureux, mais peu de temps, en tout cas.
Oh, Alors, 6 mois.
Et vous avez eu combien d'enfants avec lui?
Un seul, oui. Mais j'en voulais pas. Je voulais pas rendre un enfant malheureux parce que je suis myopathe, moi.
Oui.
J'ai la myopathie des ceintures, je suis en fauteuil, là. Moi, je suis tombée malade à l'âge de 14 ans. Et je suis en fauteuil depuis 2002. Mais je marche un petit peu avec un déambulateur. Non, c'est de la trahison pure. Moi, j'étais persuadée, mais dans ma tête, 40 ans de vie commune, on finira notre vie ensemble. Après, c'est de l'affection, de la tendresse.
Oui, oui, et puis 41 ans de vie commune, c'est... On apprend,
c'est beaucoup
on a
quand
appris,
même.
Ah bah, c'est beaucoup, oui, c'est un morceau.
Donc, on se dit, nos jours sont ensemble.
Oui,
on
oui.
terminera notre vie ensemble.
Mais vous voyez comme quoi, ces mariages comme ça, soumis par la famille, ça reste...
Là, c'était pas le mien, il n'était pas.
Bah, il
Moi,
était
le
un
mien,
peu, puisque
c'était, je suis malade.
Oui.
Je suis malade, je ne marierai pas. Sa cousine, Germaine, qui était malade comme moi, que j'ai connue dans un centre, qui après, quand on est arrivé à Paris, moi, je cherchais du travail, m'a dit, écoute, moi, j'ai un cousin qui cherche du sérieux. Est-ce que tu veux que je te le présente? Je lui ai dit, surtout pas. Moi, je veux pas de rebeux, premièrement. Hein? Et les rebeux n'acceptent pas les handicapés.
Oui.
Elle me fait, si, parce qu'à l'époque, je marchais beaucoup mieux que maintenant. Je travaillais dans le 9e, j'avais mon appart. J'étais très autonome. Et la maladie m'a grignoté tout doucement.
Oui.
Mais dans ma tête, c'était pas de mariage. Avoir de temps en temps un copain, et c'était très bien comme
ouais,
ça.
Oui, mais vous aviez raison, au fond de...
Oui, j'avais ma petite vie tranquille, voilà. J'avais mon boulot, un boulot qui m'intéressait, tout se passait très bien.
Mm-hmm. Saïda,
et quand on me l'a...
On va être obligé
d'interrompre,
mais si vous voulez, on peut reprendre cette conversation demain,
oui.
Si vous le souhaitez. Parce
ah
qu'on,
ben je veux bien,
va,
oui, avec
on va,
plaisir.
On va finir ça, je vous appellerai en début d'émission demain,
d'accord.
Et puis on finira sur tout ça, parce que c'est
oui,
la fin
oui,
de l'émission.
Oui, c'est vrai que c'est l'heure.
D'accord.
Merci,
je vous
Olivier,
embrasse, et Florian
beaucoup.
Vous rappelle à 22h30 demain, d'accord?
D'accord, c'est gentil, je vous dis à demain.
À demain.
Je vous souhaite une bonne soirée, merci pour votre écoute.
À vous aussi, je vous embrasse,
merci,
au revoir.
Merci, au revoir.
Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne courte ce soir. Mais bon, football oblige. Demain, cette libre antenne reprend ses droits. On se retrouve à 23h30. Mais la nuit n'est pas finie sur Europe 1. Elle est loin d'être finie, puisque juste après l'émission, vous allez pouvoir écouter jusqu'à 5h du matin les podcasts de des plaidoiries nocturnes. Et c'est jusqu'à 5h du matin. Et je vous conseille vraiment de les écouter parce qu'elles sont d'une qualité rare. Plaidoiries nocturnes, une nuit de podcast, mon client et moi. Ça parle des avocats et c'est passionnant. Quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Et on se retrouve demain soir à 22h30. Salut. Europe 1, il est 1h du matin. À demain.